message d'aujourd'hui, vous avez vu que ça allait aborder plusieurs péchés subtils, plusieurs péchés acceptables. Mais avant cela, on va faire un... Merci. Mais avant cela, on va faire certains rappels, et notamment comment on en est venu à avoir ces péchés acceptables. Et je vais rappeler très brièvement ce que Mike a déjà dit hier. Je ne vais pas vraiment compléter, je vais juste rappeler. Voilà. Si on regarde l'histoire de la Bible, si vous connaissez l'histoire de la Bible, on sait que ça commence par la Genèse, ça commence par la création. Puis suite à cela, il y a la création de l'univers, de la terre, de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Puis il y a cette relation entre Dieu et l'homme. Puis il y a eu le péché de l'homme, il y a eu la chute. Et ce péché a séparé l'homme de cette relation qu'il avait avec Dieu. Et ce péché, c'est comme une maladie. Je pense que Mike a dû parler du cancer, en fait. Et cette maladie, ça se transfère de génération en génération. Dès qu'il y a un accouplement, un enfant qui naît, il a cette maladie en lui. Je ne pense pas que Tong a appris à Léo à dire non. Je pense que naturellement, Léo a appris à dire non tout seul. Et ça démontre bien qu'on a finalement ce péché en nous, qui se transmet. Et le problème, c'est que ce péché, ce mal en nous, nous a séparés de notre relation avec Dieu. Et ça a plusieurs conséquences aussi, mais c'était une des plus essentielles. Parce que du coup, il y a eu la mort qui est entrée dans le monde. Mais Dieu, dans son grand amour, a donné Jésus-Christ. D'ailleurs, merci, on ne s'était pas concerté avec Florence, mais merci pour ses chants sur la croix. Et Jésus-Christ s'est donné sur la croix, Jésus qui était Dieu, s'est donné sur la croix afin que nous ayons la vie, que nous soyons restaurés. Est-ce que c'est possible de baisser un petit peu le... C'est ici ? C'est mieux.
Tu veux baisser ça ?
Ouais, baisser. C'est ce que je vois moi après. Parce que c'était bien en fait. Super, merci. C'est bon. Ok. Alors, selon la Bible, à partir du moment où on croit en Jésus-Christ, on admet que oui, je suis pécheur, je suis séparé de Dieu, et bien Dieu nous offre sa grâce. C'est-à-dire le salut gratuit. Et cette relation, ensuite, est restaurée entre Dieu et l'homme. Et suite à cela, c'est ce qu'on appelle la justification. Nous sommes déclarés saints, et c'est une fois pour toutes. On ne va pas revenir dessus. À partir du moment où vous avez fait ce choix de suivre Dieu, vous devenez co-héritier du salut. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes adopté. Dieu a payé la rançon. Jésus a payé la rançon. Non pas une rançon au diable ou quoi que ce soit, mais il a versé son sang en échange pour que nous soyons sauvés. Que nous avons cette relation de nous rétablir avec Dieu. Nous sommes donc déclarés saints. Et la Bible utilise des images vraiment fortes pour dire que nous étions dans le royaume des ténèbres. Nous avons été transportés dans le royaume de céleste. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et finalement, en gros, quand il y a la conversion, ça devrait se voir. Ça devrait se voir. De la même façon, si je prends l'image de l'armée, je pense que Mike a utilisé cette image-là. Dans l'armée, quand vous engagez, vous êtes prêt à suivre une formation vraiment assidue dans un certain but. Et le but, c'est que vous deveniez officier et que vous avez changé votre comportement par rapport à avant. Vous faisiez des choses. Maintenant, vous avez une discipline à avoir et on s'attend à ce que vous ayez une conduite digne d'un officier. Ce qui fait que quand il y a des dérives, il y a des choses qu'on constate chez les officiers qui boivent de l'alcool, etc., des heures qu'il ne faudrait pas, etc. On appelle ça une conduite indigne d'un officier. Et en fait, des fois, ce qu'on regarde chez les chrétiens, il y a des conduites indignes de saints. Et effectivement, je pense que tous, moi ici présent aussi, ça nous arrive encore de pécher. Mais comment ça se fait? Parce qu'on a dit qu'on était des ténèbres à la lumière, on devrait avoir un changement radical, et d'un autre côté, on continue à pécher. Comment ça se fait? Mike l'a dû rappeler hier, Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. Paul qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc ce passage nous montre qu'il y a notre chair qui lutte avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Au moment où on croit en Jésus-Christ, on a la foi, on a le Saint-Esprit qui vit en nous, et il y a encore cette nature pécheresse qui est la chair, et les deux se combattent, si bien que le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait, et le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas. Et Paul le rappelle aussi dans Romains 7 à partir du verset 15. Nous avons donc des péchés. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir identifier ces péchés pour pouvoir ensuite les combattre. Parce que si on ne sait pas quels sont nos péchés, c'est difficile de dire ouais, « je vais lutter contre ce péché, mais est-ce que même je me rends compte que je l'ai ?» Non, c'est vraiment important de pouvoir le repérer. Et maintenant, je vais juste rappeler les sept pistes pour combattre les péchés, les sept pistes générales. Et ensuite, on va aborder les péchés en voyant quelles sont les solutions peut-être plus précises adaptées à chaque péché. Donc, les sept pistes pour lutter contre le péché. La première piste est de considérer le péché à la lumière de l'œuvre de Christ. Christ, à la croix, nous a rachetés par son sang et nous a pardonné nos fautes. Et ça, c'est acquis une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle la justification. Il ne faut pas revenir dessus. À chaque fois que nous péchons, nous pouvons revenir à Jésus, nous pouvons revenir à Dieu parce que nos péchés sont pardonnés. Il faut vraiment nous rappeler de cette double vérité. C'est que nous sommes pardonnés et aussi qu'on se considère comme justes, non seulement par nous-mêmes, mais grâce à l'œuvre de Christ. Alors, si possible, ça serait bien que vous preniez un peu vos portables ou de quoi noter, pour noter quelques références. Pas forcément noter tout ce que je vais dire, mais surtout les références pour que ça puisse vous interpeller. Et aussi, il va y avoir des groupes de partage. Là, j'ai parlé à trois quarts d'heure, normalement. Il va y avoir des groupes de partage avec des leaders. Donc, je vais demander à chaque leader de vraiment noter les passages, parce que ça va être vraiment important. Donc, les leaders, ça va être moi-même, ça va être Mike, ça va être Yada, ça va être Samuel Tai. Samuel Tai qui n'est pas là. Ok. Tatiana et Florence. Ok, vous êtes les leaders. La première piste, c'est considérer le péché à la lumière de l'œuvre de Christ. Et donc, nous sommes pardonnés et considérés comme justes par Dieu grâce à l'œuvre de Christ. Donc ça, c'est selon Colossiens 2, versets 13-14, Romains 3, versets 21-22, et Philippiens 3, verset 9. Colossiens 2, 13-14. Donc, non seulement Dieu a pardonné nos fautes, mais il nous a aussi imputé cette justice parfaite de Christ en nous-mêmes. Cette justice est imputée à tous ceux qui croient. Donc, Romains 3, versets 21 à 22. Romains 3, 23, vous connaissez, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais juste avant, il y a écrit aussi que ceux qui croient sont considérés comme justes par Dieu. Donc, c'est par la foi que nous sommes considérés comme justes par Dieu. Et Philippiens 3, verset 9, qui est un verset un peu équivalent. Deuxième chose, on est appelé aussi à compter sur la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous faisons mourir le péché dans notre vie, Romains 8, verset 13. Et nous aurons toujours besoin du Saint-Esprit, de sa puissance, pour progresser dans la sanctification et vivre une vie qui honore Dieu. C'est un peu comme une image que je pourrais prendre, l'image du moteur électrique. Le moteur, c'est notre vie spirituelle. Ok, elle fait le travail, mais ce moteur a besoin d'une source extérieure, et cette source extérieure, c'est l'électricité, et en fait, c'est le Saint-Esprit. Donc, ok, on travaille en tant que moteur, mais on a besoin d'être raccordé toujours au Saint-Esprit. Donc, comptez sur la puissance du Saint-Esprit. Troisième chose, prendre conscience de notre responsabilité. Gardez les deux réalités en tête. Il y a une responsabilité non seulement de combattre les péchés en tant que saint, on est censé avoir une conduite digne d'un saint, mais d'un autre côté, on a aussi une responsabilité qui est dépendante. C'est qu'on dépend du Saint-Esprit. Il y a ce verset, il y a cette citation pardon, qui dit « Travaille comme si tout dépendait de toi et en même temps aie confiance comme si tu n'avais rien fait du tout. » Quatrième chose, donc troisièmement, prendre conscience de notre responsabilité. Quatrièmement, prendre conscience de nos péchés acceptables, de nos péchés subtils. Et ça, c'est les objectifs, l'un des objectifs des futurs messages que petit à petit on va apporter. Et lorsque nous aborderons chacun de ces péchés, je vous invite à vraiment demander au Seigneur de nous aider par son Saint-Esprit à voir si ces péchés sont présents dans notre vie avec une attitude d'humilité, de réelle volonté de voir les choses en face et ensuite de demander dans quelles circonstances ce péché se manifeste dans notre vie. Cinquièmement, il faut nous attacher à la parole. Nous soumettre à ce que la Bible dit concernant chacun de ces péchés subtils, ça on va le développer à chaque fois, mémoriser les textes qui nous aideront à combattre ces péchés, méditons-les et les apporter aussi à Dieu dans la prière. On peut même s'appuyer sur ces textes pour prier, conserver les instructions de Dieu, s'appuyer sur la parole selon psaume 119 verset 11 et conserver, c'est le mot qui est utilisé en grec, c'est pour dire garder une chose en réserve pour des besoins futurs. Donc quand j'ai conservé, conserver l'écriture, c'est vraiment, ok, peut-être sur le moment où on l'apprend, on n'en a pas besoin, mais au moment où on sera face à un péché, on aura besoin de ce verset pour nous aider. Et encore une fois, la mémorisation de versets ne constitue pas une solution magique, il faut aussi la mise en pratique derrière. Enfin, il y a ce rôle de persévérer dans la prière, qui est l'une des armes principales dans notre lutte. Et c'est pareil que nous reconnaissons consciemment qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de Dieu, du Saint-Esprit, et qu'on pourra discerner la présence du péché dans notre vie. Et cette prière peut prendre deux formes. La première, c'est le culte perso, qu'on prie régulièrement, et que tous les jours, on peut se remémorer ça. Et aussi la prière courte, spontanée, en cas de situation de péché, je suis en train d'être tenté, et là, j'ai besoin de prier rapidement. Et dernière chose, c'est ce qu'on va faire, c'est combattre avec tes frères et sœurs. Impliquer un ou plusieurs chrétiens dans le combat contre ces péchés subtils. Et ça va nécessiter, vous allez voir dans les petits groupes, qu'il y ait une réciprocité entre les partages. Si moi je partage, si ton, par exemple, tu partages à Laurent, faut aussi que Laurent, s'il te partage, tu ne vas pas lui raconter juste ce que... Enfin, voilà. C'est vraiment important qu'il y ait un climat de confiance, de sincérité, d'authenticité. Voilà. Donc, les sept pistes. Considérer le péché à la lumière de l'œuvre de Christ. Compter sur la puissance du Saint-Esprit. Prendre conscience de notre responsabilité, mais dépendant toujours du Saint-Esprit. Prendre conscience de nos péchés qui sont acceptables. Nous attacher à la parole. Persévérer dans la prière. Et enfin, combattre avec les frères et sœurs. Toutes ces pistes sont valables pour chacun des péchés qu'on va aborder maintenant. Et malgré ces conseils, je vous dis, il va y avoir un combat entre notre chair et le Saint-Esprit. Galates 5, verset 17. Et même si des fois, nous avons l'impression que nous sommes enfermés dans un péché particulier, qu'on a l'impression qu'on ne progresse pas, qu'on se bat toujours contre le même péché, et Dieu utilise ces désobéissances de notre part et ces défaites pour nous montrer que nos péchés subtils sont profondément enracinés en nous et que nous sommes totalement dépendants de la puissance du Saint-Esprit, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Je peux décider de ne pas commettre ce péché un jour, deux jours, trois jours, mais pour que ça dure aussi longtemps, c'est impossible. Donc voilà, et maintenant on va examiner le premier des péchés, qui est un des péchés principaux, qui est l'impiété. Alors, pour chacun des péchés qu'on va voir, je vais expliquer pourquoi ceci est un péché. Ensuite, on va aussi définir ce qu'est ce péché, définir ce que ce péché, pourquoi c'est un péché. Enfin, voir comment combattre ce péché, quelles sont les solutions que la Bible propose, des solutions bibliques, comment les mettre en pratique. Voilà. Et puis après, dans les petits groupes, on aura des questions qui vont vous aiguiller dans ce sens-là. Alors pourquoi ? Alors le premier péché, c'est l'impiété. Alors pourquoi l'impiété? Pourquoi c'est un péché? Souvent les gens pensent que la cause de tous nos péchés acceptables, c'est l'orgueil. Mais en fait, on va voir, et ça je vais développer petit à petit, c'est que l'impiété joue un rôle encore plus important, il est encore plus répandu, et il constitue la racine de tous les autres péchés. Pareil. Quelque chose d'important aussi, c'est de discerner qu'il y a une différence entre l'impiété et l'injustice. Paul fait cette distinction entre les deux, dans Romains 1, chapitre 18.
Oui.
Oui, je le fais. Je suis dedans là. Donc, il y a une différence entre l'impiété et la justice. D'un côté, l'injustice, ça fait référence à des péchés, ce qui fait qu'on est déclaré comme pas juste devant Dieu, non juste. Ça fait référence à des péchés qu'on fait en pensée, en parole ou en acte. Ça, c'est l'injustice. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle l'impiété, qui décrit en fait notre attitude envers Dieu, c'est-à-dire vivre nos journées sans penser au Seigneur, sans rechercher sa volonté, sa gloire, et sans dépendre de lui. Ces trois choses, on va les développer et on va voir finalement que la solution à l'impiété, c'est de penser au Seigneur, c'est de rechercher sa volonté et sa gloire et de dépendre de lui. Donc à partir de cette définition, injustice, ça fait référence à des péchés. L'impiété, c'est vivre nos journées sans penser au Seigneur, sans rechercher sa volonté, sans dépendre de lui. C'est notre attitude en fait envers Dieu. Donc par conséquent, un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à Jésus, est par définition un impie. Il ne pense pas au Seigneur, il ne cherche pas sa volonté, il ne dépend pas de lui. Mais des personnes qui sont moralement correctes le sont aussi, même des croyants, même si ces personnes sont gentilles, courtoises, aident les autres, vont au culte le dimanche, elles vivent leur journée comme si Dieu n'existait pas. Et quelque part, c'est un péché qu'on a un peu tous. Nous avons tous cette tendance à oublier Dieu. Après notre culte perso du matin, de quelques minutes, nous sommes lancés à pleine vitesse dans les activités de la journée, qu'on aille travailler, qu'on aille en cours, pour finalement vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous dépendons rarement de lui et nous oublions la responsabilité que nous avons devant lui. Nous pouvons passer des heures, voire des journées, sans penser à lui. Ainsi, nous ne sommes pas si différents de nos voisins qui sont non-chrétiens, qui sont gentils, respectables, mais qui sont non-chrétiens. Eux, ils ne pensent jamais au Seigneur, mais finalement, nous, nous ne pensons pas beaucoup à lui non plus. Nous sommes donc impies. Nous sommes dans l'impiété. Être dans l'impiété, je l'ai dit, c'est vivre nos journées, premièrement sans penser au Seigneur. Selon Jacques, verset 4, verset 13 à 15, vous rappelez ce riche qui dit « Oh là là, j'ai trop de récoltes, je vais faire construire encore un grenier pour mettre encore plus de récoltes, parce que comme ça, je vais gagner plus d'argent. » Et puis Jacques dit, non mais pauvre fou, ta vie te sera demandée ce soir même, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça quoi. Il n'est pas mauvais en soi de faire des affaires selon ce verset, mais il est mauvais de faire des projets sans tenir compte de Dieu. Et c'est parfois notre cas nous aussi, donc vivre nos journées sans penser au Seigneur. Deuxième chose, c'est vivre nos journées sans rechercher sa volonté et sa gloire. Souvent nous ne cherchons pas à savoir ce que Dieu désire, et nous sommes contents de nous parce que ok, on est clean, on se garde des péchés flagrants, on ne regarde pas trop la pornographie, etc. Pourtant, selon Colossiens versets 1 à 9 à 10, Paul fait une prière. Il fait une prière pour les Colossiens, pour les croyants, et il dit qu'il prie pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Il prie pour qu'ils puissent vivre d'une manière digne de Dieu et qu'ils puissent lui plaire en toute chose. Waouh, Paul et prier pour qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Un exemple de prière. Et nous, quelles sont nos prières? Souvent, nos prières sont des requêtes. On prie pour la santé, on prie pour les besoins financiers des proches. En soi, ce n'est pas mauvais de faire des requêtes. Mais par contre, si nos prières ne se résument qu'à cela, on considère Dieu comme un distributeur, en fait, de bénédictions, comme un serviteur. Et finalement, ça montre que nos demandes sont centrées sur nous-mêmes et pas sur Dieu. Dans Colossiens 3, verset 22-24, Paul exhorte les esclaves à faire les choses comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et ça, ce verset-là, on peut l'appliquer dans notre principe, au travail, ou dans notre service chrétien, dans l'Église. Et est-ce que je fais, quand je travaille dans la RH comme Florence, est-ce que je travaille pour la gloire de Dieu? Est-ce que je recherche la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Ou est-ce que je fais comme les non-croyants qui travaillent uniquement pour eux-mêmes, pour leur carrière, leur augmentation, c'est ça en tête, et on ne cherche pas finalement la première chose à faire quand on travaille, c'est de plaire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul va plus loin. Il dit qu'il ne faut pas seulement chercher à plaire à Dieu, mais il demande de le faire pour la gloire de Dieu. Manger, manger c'est pour la gloire de Dieu. Boire, faire les courses, conduire, mes frères, conduire, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Nous comporter. Il y a un double objectif dans cette recherche de la gloire de Dieu. Premièrement, on prie pour se laisser remplir par Saint-Esprit qui nous inspire, avant de commencer la journée, nos paroles, nos actions qui soient agréables. Et on peut aussi prier pour que ces comportements-là, ensuite, ils servent de témoignage pour les non-croyants. Donc on prie avant, ok, comme ça on fait tout pour la gloire de Dieu, etc. On est toujours dans cette perspective, mais en même temps, ça sert à glorifier Dieu et à être un témoignage pour nos amis non-croyants. Et dans le cas contraire, je m'appuie aussi sur Matthieu 5, versets 13 à 16, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et dans le cas contraire, nous serions des contre-témoignages. Regardons Romains 2, versets 23 à 24. Il est écrit que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. À titre personnel, il y a un mois, j'étais un peu fatigué. C'était la fin de l'après-midi. Et voilà, j'ai une réunion avec... Enfin, je travaille dans un bureau d'études, donc on a des réunions avec d'autres bureaux d'études, etc. Puis à un moment donné, à la fin de la réunion, je sors et puis il y avait le gars qui était en face de moi. Dans ma tête, c'était un guignol. Je me suis dit, oh, franchement, il fait plein de blagues, il parle fort. Enfin, et du coup, je commence à dire, franchement, ouais, n'importe quoi, ce gars. Et puis, sauf que je fais ça, au moment où je rentre dans mon bureau, et dans mon bureau, on est quatre en fait. Hein. Et puis à ce moment-là, je croise le regard du patron, parce qu'il était là aussi. Puis je rigole comme ça, et puis il fait, bah Clément, pourquoi tu rigoles? Je fais, ah non, rien, enfin, non, enfin, je suis fatigué et tout. Je fais, bah Clément, pas bien de se moquer des gens, c'est pas très chrétien tout ça. Et là, je fais, waouh, grosse claque. Et je peux vous dire que les deux heures qui ont suivi, c'était 16h, 18h, un truc comme ça, c'était horrible pour moi. Parce que je me dis, mais waouh, je cherche à refléter Jésus, Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait, waouh, tu te moques des gens, quoi. Enfin, t'as pas. T'es un contre-témoignage, clairement. Deux heures plus tard, je vais voir le patron, je fais, ouais, t'as raison, Christian, j'aurais pas dû faire ça. Mais tu rigoles, Clément, attends, c'est bon, moi je le fais tout le temps, tu peux le faire aussi. Sur le coup, j'ai pas dit, mais j'ai fait, ouais, mais... Enfin, moi je lui ai dit, ouais, mais non, mais franchement, j'ai pas le faire, quoi. Et... Et bon, je pouvais pas dire, ouais, mais toi t'es non chrétien, toi t'es impie, moi je pouvais pas dire ça, quoi. Donc voilà, Et après coup, j'en ai parlé avec un de mes stagiaires qui était dans la pièce. Après coup, hein, on a beaucoup discuté. Et je lui dis, bah tu vois, je suis chrétien et tout, mais ça m'arrive encore de pécher. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai demandé pardon, je me suis excusé auprès de mon patron parce que c'est clairement un comportement que je n'ai pas à avoir. C'est pas digne d'un saint, quoi. Et du coup, Dieu a utilisé cette. Circonstances en fait pour montrer que bah d'une ok souvent les chrétiens on essaie d'afficher des étiquettes, ouais on est comme ça et tout, moi j'ai la croix machin et tout, on essaie d'avoir un bon comportement, mais aussi des fois Dieu utilise nos mauvais comportements, nos mauvais témoignages pour sa gloire. Et j'ai pu témoigner ensuite à ce stagiaire qui a je sais pas 21 ans et tout, et je lui ai témoigné et tout, mais je lui dis bah tu vois moi je suis pas parfait, je suis pas meilleur que toi, je fais toujours des péchés et tout, c'est ce que moi je compte vraiment sur la grâce de Dieu et ça je le mérite pas. On a vu qu'être dans la piété, c'était vivre nos journées sans penser au Seigneur. Et deuxièmement, que c'était vivre nos journées sans rechercher sa volonté et sa gloire pour notre vie. Troisièmement, la piété, c'est vivre nos journées sans dépendre de lui. Et ne pas dépendre de Dieu, c'est un manque d'une profonde communion avec lui. Telle que décrite dans Psaume 42, versets 2 à 3, vous connaissez comme une biche au pied après des cours d'eau. Comme une biche soupire après des cours d'eau. Je pourrais dire comme Abraham soupire après un Coca-Cola, quoi. C'est vraiment... j'ai soif, quoi. D'ailleurs, j'ai soif, là. Et voilà, je soupire après cette bouteille et je la bois. Et de la même manière, nous, là, on devrait soupirer après cette boisson qui est finalement cette communion avec Dieu. Psaume 27, verset 4, vous connaissez aussi ce chant qui dit une chose. une chose que je désire ardemment, c'est basé sur ce psaume, donc psaume 27, verset 4. Je demande à Dieu, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Waouh ! Profonde communion avec Dieu, de David. Et si on compare aujourd'hui avec nous, je pense que très peu d'entre nous, on affirme aspirer à ce Père. Ouais, je veux. Sincèrement. Peut-être on vit une vie morale, droite. On est peut-être actif, on est proactif, on est très très actif dans l'Église. On fait partie des responsables, des diacres, etc. Mais nous n'avons pas forcément cette soif de communion intime avec Dieu. Or, Dieu, normalement, est au centre de la vie de ceux qui craignent son nom. Et cette sainte crainte oriente la manière de voir les différentes situations de la vie, que ce soit matérielle ou spirituelle. Quand on est chrétien, on a comme des nouvelles lunettes et on voit les choses différemment, que ce soit les choses matérielles ou spirituelles. Et cette vision n'est possible que si nous cherchons à progresser toujours plus dans notre communion avec lui. Ça ne sert à rien d'être diacre. Ouais, je l'affirme, ça ne sert à rien d'être diacre. Ça ne sert à rien de servir à la louange, de servir à la prédication si notre communion avec Dieu est zéro. Le plus important, Dieu ne veut pas, c'est pas le temps qu'on passe à faire des choses pour lui, c'est le temps qu'on passe avec lui. Et j'avais un frère de France Évangélisation qui disait le temps avec Dieu plutôt que le temps pour Dieu. Le temps avec Dieu avant le temps pour Dieu. Je dis que l'impiété était différente de l'orgueil. En fait, l'impiété est la cause de tous les autres péchés qui sont dits acceptables. Si on devait prendre un arbre avec ses racines, l'impiété, ça serait justement ses racines qui permettent au tronc de tenir, et le tronc, c'est l'orgueil. Et ensuite, les branches de l'arbre représentent tous nos péchés qui sont reliés à notre orgueil. Mais notre orgueil se base finalement sur notre manque de communion avec Dieu, de notre manque de pensée au Seigneur et de notre manque de recherche de sa volonté et de sa gloire. L'impiété est à la racine de tous les autres péchés. Maintenant, comment remporter la victoire sur les pensées impies ancrées en nous? C'est un peu de faire le contraire de ce que j'ai dit, c'est-à-dire penser au Seigneur, rechercher sa volonté et sa gloire, chercher à dépendre de lui. Et selon 1 Timothée 4, verset 7, vous connaissez, l'exercice physique est utile à peu de choses. Donc, grâce à du Krav Maga, c'est bien, mais c'est utile à peu de choses. Mais par contre, c'est bien de t'entraîner à faire du Krav Maga parce que tu exerces ton corps, donc au niveau physique. Mais de la même façon, Paul, il prend cet exemple-là pour qu'au niveau spirituel, on puisse s'exercer à la piété. C'est-à-dire que la piété, ça ne vient pas, hop, hop, j'ai la connaissance, voilà, c'est bon. C'est vraiment un exercice spirituel. Et on devrait s'infliger un peu cette même énergie, ce même engagement, cette volonté, cette persévérance qui a animé, par exemple, Céline, quand ce matin, tu as fait ton jogging, voilà, tu avais envie de le faire, quoi. Pareil, est-ce que dans notre relation avec Dieu, on a envie de nous exercer à la piété? Alors que les athlètes le font pour des récompenses terrestres, mais nous, on est appelés à le faire pour des récompenses célestes. Il y a un exemple encore. C'est des jeunes, ce que dit l'auteur, qui ont campé en hiver toute une nuit et dans le froid devant un magasin de jeux vidéo pour s'acheter une nouvelle console de jeux vidéo. Camper toute une nuit. Alors en fait, c'est une nuit et un jour. Donc, c'est vraiment 24 heures. Ils étaient venus le dimanche à 9h du matin pour être devant, ils ont planté leur tente devant. Et à 8h le lundi, pouf, ils étaient comme ça, être sûrs de pouvoir acheter la nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'était la PS3, PS4 à l'époque, mais voilà. Waouh. Ces gens-là, ils n'ont pas la foi. Enfin, je ne pense pas qu'ils ont la foi par rapport à Dieu ou quoi, mais même s'ils l'avaient, ils ont ce zèle pour dire, waouh, allez, on va se mettre 24h, je suis prêt et tout. Ah, il fait froid et tout, c'est pas grave parce que je vais avoir ça, parce que je cherche à avoir ça. Et... waouh, quel zèle. Et est-ce que nous, on a ce même zèle pour rechercher la sainteté de Dieu? Pour rechercher à être saint devant Dieu? Donc je rappelle encore, nous devons aspirer à vivre chaque instant de nos journées en pensant au Seigneur, en étant conscient de sa présence, en recherchant sa volonté et sa gloire, toujours avec cette responsabilité devant lui, et en dépendant de son Saint-Esprit, en cherchant toujours une communion plus intime, plus profonde avec Dieu. Donc l'impiété, vous allez voir dans les questions, ça englobe tellement de domaines qu'il faut se poser les bonnes questions pour identifier le domaine précis de votre vie où vous êtes concerné par l'impiété. Ce qui est excellent avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est que pour un même verset, eh ben, ça peut toucher différents domaines de notre vie. En fait. Et ça, vraiment, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est vraiment l'image qu'il utilisait dans Hébreux 4, verset 12, et c'est vraiment ça. Donc les versets, attention, il faut noter, les versets à mémoriser pour s'attacher à la piété, psaume 27, verset 4, comme soupire une biche, psaume 42, verset 2 à 3, excusez-moi, comme soupire une biche, c'était psaume 42, et psaume 27, verset 4, c'est une chose que je désire ardemment, psaume 63, verset 2, 1 Timothée 4, versets 7 à 8, 1 Corinthiens 10, versets 31, Colossiens 1, versets 9 à 10, et Colossiens 3, verset 23, qui dit de faire toutes choses comme pour le Seigneur. Et donc, avant tout, cherchons à être davantage conscients de la présence de Dieu, parce que Dieu voit tout ce que nous faisons, entend chacune de nos paroles et sait tout ce que nous pensons. Cherchons donc à nous préoccuper de Dieu autant que Dieu se préoccupe de nous. L'impiété. Donc ça, c'était le premier péché. On va passer à l'inquiétude. L'inquiétude et la frustration. Dans cette partie-là, on va aborder les difficultés de la vie de tous les jours et la manière dont on réagit aux difficultés de la vie. Donc l'inquiétude, la frustration par rapport aux circonstances. L'inquiétude, selon la définition, c'est vraiment important de poser des définitions pour chaque mot pour être sûr que vraiment ce qu'on dit est clair. L'inquiétude est liée à une incertitude, une crainte quant à l'avenir. Par exemple, je suis inquiet parce que voilà, je vais peut-être rater mon voyage en avion. Et à long terme, c'est par rapport au fait de, par exemple, la perte d'un emploi. Je suis inquiet parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai perdu mon emploi et je cherche à avoir un emploi où... Alors que la frustration, on va voir, c'est la réaction de colère que j'ai face à un événement immédiat qui contrarie mes projets ou mes désirs. Donc l'inquiétude. Alors déjà, préalablement, on peut voir que Dieu nous commande de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur. Vous pouvez noter Matthieu 6, verset 25 à 34, Matthieu 10, verset 31, Luc 12, verset 7, et Philippiens 4, verset 6. Luc 12, verset 7 et Philippiens 4, verset 6. Et ça, c'est un commandement, c'est la volonté de Dieu. C'est Jésus qui le dit, ne vous inquiétez pas, c'est un commandement. Et l'inquiétude, c'est l'opposé de la confiance en Dieu. L'inquiétude est donc un péché. L'inquiétude est un péché pour deux raisons. La première, c'est lorsque je m'inquiète, je ne fais pas confiance à Dieu. Alors qu'il a promis qu'il prendra soin de moi, dans 1 Pierre 5, verset 7. C'est-à-dire, je crois qu'il ne s'occupe pas de moi, qu'il ne prendra pas soin de moi dans cette circonstance précise. Si je prends vraiment l'exemple de Yada. Yada, tu aimes Florence, je pense. Je pense que Florence, a priori, normalement, elle t'aime. Donc imagine que Florence te dise, je ne crois pas que Yada, tu m'aimes et que tu prendras soin de moi. Waouh, combien cela te blesserait? Non? Et bien pourtant, c'est ce que nous disons quand nous faisons du souci. On est en train de dire à Dieu, non, mais je crois pas que tu m'aimes et que tu vas prendre soin de moi. L'inquiétude reflète un manque de soumission à la souveraineté de Dieu sur notre vie. Ça, Mike l'a vraiment rappelé hier, la souveraineté de Dieu sur notre vie. On a tendance à nous focaliser sur les causes immédiates de notre inquiétude au lieu de nous rappeler que Dieu est au contrôle. Dieu dirige toutes les circonstances et tous les événements pour sa gloire. Par exemple, c'était le plan de Dieu que mon avion ait du retard, que je rate la réunion parce que je ne savais pas pourquoi, mais suite à cela, j'ai pu témoigner de ma foi à quelqu'un, je lui ai donné l'évangile et finalement cette personne s'est convertie. C'était le plan de Dieu. Par rapport aux solutions, comme solution, première solution, c'est accepter la volonté souveraine de Dieu, Romains 8, versets 28 à 29, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que Paul, quand il écrit ça, c'est vraiment particulièrement par rapport aux persécutions, toute mauvaise chose qui m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour mon bien, pardon. On peut aussi prier pour ce sujet d'inquiétude, Philippiens 4, verset 6. et pour le soulagement, la délivrance de cette inquiétude, tout en gardant en tête que Dieu est souverain. On peut mémoriser les versets clés, Matthieu 6, verset 34, Philippiens 4, verset 6, 1 Pierre 5, verset 7, Luc 12, verset 6, et Marc 9, verset 24. Il y a plein d'autres versets. Voilà. Demandez aussi, on peut aussi demander à Dieu de nous donner un cœur soumis à sa volonté souveraine. Et dans les moments très très difficiles, on est très très inquiet, on peut crier à Dieu, comme ce père qui crie pour son enfant, « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, verset 24. L'important, quand on est inquiet, c'est d'honorer Dieu par notre foi, qui peut être peut-être faible ou chancelante, mais avec une certaine foi quand même, plutôt que de déshonorer Dieu par une incrédulité qui est véritable et profonde. Voilà par rapport à l'inquiétude. Ça va plus vite, hein, parce que l'inquiété, c'était vraiment le cadre, c'était la racine, et après, vous allez voir, comme passer aux autres péchés, ça... enfin, l'inquiétude, ça va plus vite, la frustration, ça va être pareil. Donc l'inquiétude, je l'ai rappelé, ça nous conduit dans la crainte, pour une circonstance très très précise. C'est plus une crainte par rapport à moi-même, donc je suis inquiet, mais finalement, ça n'a pas vraiment forcément d'impact direct sur mon prochain. Ça peut en avoir un, d'ailleurs, implicitement, hein, mais c'est plus moi-même. Alors que la frustration... ça me conduit à l'irritation, voire à la colère. Par rapport à une chose ou par rapport à une personne qui est en train de contrecarrer mes projets que je m'étais fait dans ma tête. Par exemple, dans l'exemple de l'avion, si je prends l'avion que j'ai raté, inquiet, c'est « Ah mince, je vais rater l'avion ». Une fois que j'ai raté, franchement, c'est n'importe quoi cette compagnie, mais low cost, bah aussi low service, hein, parce que franchement... Oh là là, mais 2 heures de retard et en plus, waouh, enfin, atterrissage pas terrible, waouh, enfin voilà, on est en train d'être irrité, voire en colère contre une personne, contre une compagnie. Et finalement, cette frustration, elle est directement liée à notre impiété, parce que dans cette circonstance précise, on vit comme si bah, Dieu dirigeait, on ne vit pas comme si Dieu dirigeait notre vie et les circonstances. Et on est focalisé entièrement sur l'immédiat, qui devient pour nous la cause de notre énervement, alors qu'on devrait plutôt prendre du recul et dire waouh, ok, c'est waouh. Enfin, on peut toujours avoir une réaction un peu voilà de frustration et tout, mais faut pas qu'elle dure. Et après, faut prendre du recul et dire ok, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que waouh? Ok, prenons du recul. Qu'est-ce qu'en tant que saint je devrais faire? Comme solution, il y a 2 solutions que je propose, enfin que l'auteur propose. Première, c'est de dépendre de la parole. Lorsqu'une situation me cause de la frustration, on peut se remémorer le psaume 139, verset 16. Dieu a déjà prévu tous les jours qui m'étaient destinés. Quand on dit tous les jours, souvent on utilise ce verset pour dire « Ok, c'est toute la vie en fait, hein, je vais vivre 80 ans, 90 ans, parce que Dieu a déjà désigné. » Mais tous les jours, ça désigne aussi tous les événements de notre journée. Dieu a déjà prévu tous les événements de la journée qui m'étaient destinés. On peut dépendre de la parole et se rappeler cette souveraineté de Dieu. Et on peut aussi dépendre du Saint-Esprit, et ensuite demander de la sagesse à Dieu pour trouver une solution. Plutôt que d'être irrité et tout ça, tout de suite, c'est de prier, par exemple, de la manière suivante. Seigneur, cette circonstance fait partie de ton plan pour ma vie aujourd'hui. Aide-moi à réagir avec foi, d'une manière qui t'honore, et dans une attitude de soumission à ta volonté souveraine. Et donne-moi, je te prie, la sagesse pour savoir comment faire face à cette situation qui a tendance à provoquer en moi la frustration. L'inquiétude et la frustration sont des péchés. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Jésus était inquiet ou frustré? Non, tout ce qui ne ressemble pas à Jésus en nous est péché. Tout ce qui n'est pas Jésus en fait est péché. Et même si ces péchés ne sont pas aussi graves que l'adultère, par exemple, en termes de conséquences, ça n'en reste pas moins des péchés. Et tout péché est grave aux yeux d'un Dieu saint. Terminé par le mécontentement. Donc on a vu que l'inquiétude c'était lié à une incertitude quant à l'avenir, à court terme comme un voyage en avion, à long terme comme la perte d'un emploi. La frustration c'était la réaction que j'ai face à un événement immédiat. Maintenant on va voir le mécontentement. Qu'est-ce que le mécontentement? Le mécontentement est le plus souvent lié à des circonstances permanentes, contre lesquelles nous ne pouvons rien faire. C'est de l'insatisfaction qui est suscitée par des circonstances qui mettent notre foi à l'épreuve. Il peut s'agir, par exemple, d'un travail ennuyeux, ou un travail très difficile, où nos nerfs sont mis à l'épreuve à chaque fois, tous les jours, un travail mal payé ou pas de travail. Ça peut être aussi le célibat à un âge où ça devient dur à vivre. Ça peut être l'impossibilité d'avoir des enfants. Ça peut être un mariage malheureux, un handicap physique, une santé fragile. En fait, le mécontentement, ce n'est pas lié à l'intensité de la difficulté qu'on est en train de vivre. Le mécontentement est lié à notre manière de réagir à la difficulté. Comment est-ce que je vais réagir à la difficulté? Comme solution, premièrement, on peut reconnaître que le mécontentement est un péché. Et si le mécontentement n'est pas traité, il peut évoluer et nous conduire au ressentiment, à l'amertume envers Dieu ou des personnes. Et on peut aussi mémoriser des versets clés. Donc on les a déjà dit tout à l'heure, certains. Par exemple, psaume 139, verset 16. Dieu a préparé chaque journée, c'est-à-dire les hauts, les bas de la journée, mais il ne permet rien sans un objectif précis. Et ses buts, les buts de Dieu sont, même s'ils sont peut-être mystérieux ou insondables sur le moment, sont toujours pour sa gloire et pour notre bien. Et le psaume 139, verset 13, par rapport à peut-être si vous avez des soucis liés à votre santé ou par rapport à votre apparence physique, rappelez-vous que tout notre physique a été déterminé par Dieu de cette façon. Et c'est ainsi que son plan pour notre vie peut le mieux se réaliser. Il y a une différence entre l'acceptation et la résignation. Dans l'acceptation se trouve la paix, mais dans la résignation, on peut toujours nourrir un sentiment de mécontentement et dire ah, ouais, voilà, en étant résigné. C'est différent d'accepter. Accepter les circonstances comme venant de Dieu, c'est croire qu'il sait exactement ce qui est bon pour nous et que dans son amour, il prévoit ce qu'il y a de meilleur. Et en acceptant les difficultés, nous pouvons demander à Dieu de les utiliser pour sa gloire. En conclusion, on peut voir qu'il faut une solide confiance dans la souveraineté de Dieu, dans la sagesse et sa bonté, dans sa sagesse et sa bonté. Et notre compréhension de cela, notre volonté de s'appuyer sur ces vérités, que sont la souveraineté de Dieu, vraiment la sagesse, la bonté de Dieu, Dieu sait déjà d'avance ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ça qui va déterminer comment on va réagir face à ce péché du mécontentement. L'ingratitude. Très rapidement. L'ingratitude. Pourquoi l'ingratitude est un péché? L'ingratitude est le fait de ne pas remercier Dieu. Alors, ça n'a pas d'impact direct sur autrui, à part si une personne voit devant moi que je ne remercie jamais Dieu, mais ça concerne la personne de Dieu et notamment son commandement. Le commandement que Jésus a laissé, c'était aimer Dieu plus que tout. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Or, si nous habituons à ne pas le remercier, cela montre que nous n'aimons pas Dieu plus que tout. Alors, dans quel domaine on devrait finalement remercier Dieu? On devrait remercier Dieu pour notre salut. Selon Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de Jésus. Et ne pas le remercier juste de manière routinière, formelle, par exemple, avant un repas. Voilà, merci Seigneur pour ce repas, ouf, allez, on mange. Hop. Vraiment avoir une reconnaissance sincère et véritable pour notre salut. Deuxième chose pour laquelle on peut remercier, c'est pour notre vie. Acte 17, verset 25, Paul, discours à Athènes. Dieu donne à tous la vie, le souffle et toute autre chose. Si grâce, si denier aujourd'hui ont le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu leur fait grâce. Est-ce que Dieu leur donne ce souffle de vie? Remercier Dieu. On peut aussi remercier Dieu pour nos compétences intellectuelles. Si Mike a 3 diplômes, c'est Dieu qui a mis ce don en lui, ses talents, et qui lui a donné aussi dans sa grâce de développer ses talents. On peut remercier Dieu pour nos compétences intellectuelles, professionnelles et techniques. Remercier Dieu aussi pour tout ce que nous avons, par exemple les bénédictions. Deutéronome 8, versets 11 à 14 et versets 17 à 18. Par exemple, juste à la fin de notre journée de travail, bah, remercier Dieu pour la capacité qu'on a de travailler. On a tous nos membres, on arrive à comprendre, analyser le problème et à le résoudre. Bah, si je suis ingénieur, par exemple, dans mon cas, on a la santé aussi pour me déplacer, de prendre trois quarts d'heure pour aller au travail. J'ai cette capacité de le faire. J'ai une maison qui fait qu'on n'habite pas très loin. Remercier Dieu pour les choses que nous possédons, par exemple, dans notre maison aussi, pour garder et dire, oh, tiens, merci Seigneur pour le super ordinateur que j'ai, merci pour la superbe casserole, parce que comme ça on pourra faire à manger. Enfin, c'est tout bête, mais vraiment remercier Dieu pour toute chose. Je dis pas que vous devez faire ça tous les jours, remercier Dieu pour votre casserole, hein, c'est parce que. Pourquoi pas. Remercier Dieu aussi pour le fait de le connaître. Dans Romains 1, verset 21, vous savez, Paul qui commence par le fait que les hommes n'ont pas donné à Dieu la gloire qu'il méritait. Et ben, le fait de ne pas remercier Dieu pour qui il est, ça a eu pour conséquence le jugement de Dieu et du coup la dépravation de ces hommes. Ils ont été livrés à des formes d'immoralité et d'autres expressions du mal toujours plus perverses. Et finalement, quand on regarde la déchéance qui est décrite dans Romains 1, verset 24 à 32, c'est la même que ce qu'il y a dans notre société actuelle. Dieu n'y est pas honoré quand on regarde aujourd'hui, et on ne lui rend pas grâce. Et en tant que chrétien, nous savons ce qui est juste, et nous serons jugés encore plus sévèrement. Luc 12, verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Remercie Dieu pour la connaissance qu'on a de lui. Remercie aussi Dieu pour la résolution d'un problème que Dieu a permise, et également pour toutes les bonnes choses en tant que croyant. Éphésiens 5, verset 20, rendre grâce pour toutes choses. Et enfin, et c'est plus difficile, c'est remercier Dieu pour toutes circonstances, même mauvaises. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, c'est vraiment le verset clair à tenir, hein, avec Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20, c'est rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18, prenez des notes, écrivez un test, c'est plus rapide. 1 Thess 5:18, rendre grâce pour toute chose, pour toute circonstance. Et les circonstances dont parle l'apôtre Paul sont celles qu'il évoque dans Romains 8, verset 28-29, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ok, je remercie Dieu pour toute chose. Quelle toute chose? Pour toute chose qui concourt à son bien. Et quel est ce bien? Eh bien, c'est d'être rendu de plus en plus semblable à l'image de Jésus. Okay, notre bien, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, d'avoir une femme plus belle ou quoi. Notre bien, c'est d'être encore plus semblable à l'image de Jésus, ce que Dieu veut pour nous. Et une petite aussi distinction, ce ne sont pas les circonstances qui concourent à notre bien. On ne pourra jamais dire que la Shoah, c'était quelque chose qui concourait au bien des Juifs. Mais l'issue que Dieu a accordée à cette circonstance a permis ensuite aux Juifs, par exemple, d'avoir un État d'Israël. Vous voyez, c'est pas les circonstances qui concourent à notre bien, mais c'est l'issue que Dieu accorde à ces circonstances. Et là, je vais évoquer des solutions, parce que bon, la solution, c'est juste de remercier Dieu, mais plus des solutions pour les circonstances difficiles. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es en train de traverser une circonstance difficile dans ta vie, eh bien, je t'invite à remercier Dieu pour deux raisons. C'est que la première, c'est que Dieu va s'en servir pour notre bien, pour nous rendre plus semblables à Jésus et nous faire grandir spirituellement. Romains 8, versets 28 à 29. Et deuxièmement, c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu pendant cette période. Donc Dieu se sert de ça pour notre bien, pour nous rendre plus semblables à Jésus, pour nous faire grandir. Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu pendant cette période. Romains 8, versets 37 à 39. Et par exemple, tu peux prier de cette façon. Père, les circonstances que je traverse actuellement sont difficiles et douloureuses. Je ne les aurais pas choisies. Mais toi, dans ton amour et ta sagesse, tu les as voulues pour moi. Tu désires qu'elles contribuent à mon bien. Donc, par la foi, je te remercie pour le bien que tu vas accomplir dans ma vie à travers elles. Aide-moi à le croire sincèrement et rends-moi capable de te remercier avec mon cœur. Voilà, donc on peut mémoriser encore Éphésiens 5, 20, rendre grâce pour toutes choses. 1 Thess 5, 18, rendre grâce en toutes circonstances, celle dont parle Romains 8, 28, 29. Et demander à Dieu d'appliquer leur contenu de ces deux versets dans ma vie pour le remercier en toutes circonstances. Et on peut le faire aussi à travers notre culte perso, d'exprimer notre reconnaissance ou de le faire de manière spontanée. Voilà, donc aujourd'hui on a vu plein de trucs, hein, plein de choses d'un coup. On a vu que l'impiété c'était le péché qui était la racine de tous les autres péchés. On a vu que l'ingratitude était un péché, on a vu que le mécontentement aussi, que l'inquiétude de notre nation était le péché. On va passer un petit groupe. Et pour les questions, on viendra nous voir et on discutera, parce que c'est important d'avoir des petits groupes.